France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous sommes très heureux de recevoir ce matin celui qui fut pendant 22 ans le titulaire de la chaire de littérature de la France médiévale au Collège de France, aujourd'hui membre de l'Académie française. Il publie aux belles lettres « On lit mieux dans une langue qu'on sait mal ». Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Michel Zinc, bonjour.
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 Et merci d'être à notre micro ce matin pour parler de ce livre qui poursuit le portrait de l'immense lecteur que vous êtes. Ces pages sont écrites d'une plume érudite et ironique, deux qualités qui en général ont plutôt tendance à s'exclure. On ne s'y attendait pas, vous le grand défenseur de la langue française, vous vous souvenez de vos lectures d'écrivains étrangers, Conrad, Virginia Woolf, Elias Canetti, Thomas Mann ou encore John Irving. Le point commun à toutes ces lectures, c'est que vous les avez faites dans leur langue originale, italien, anglais, allemand, des langues faciles, dites-vous, que vous ne parlez pas vraiment et que vous n'avez pas vraiment apprises non plus. Vous avez plongé dans ces textes, vous y avez trouvé un plaisir immense. Dites-nous pour commencer, de quelle nature est donc ce plaisir ?
Le plaisir, d'abord, c'est le plaisir de lire. Je lis des livres qui me plaisent, qui m'attirent et dans lesquels je me plonge avec des lectures qui m'enrichissent. Mais aussi, le plaisir de vaincre une petite difficulté. Je n'ai appris vraiment en classe que l'allemand, j'ai appris l'anglais et l'italien sur le tas, et m'apercevoir que je peux lire, c'est une jouissance sans pareil. Et puis, c'est une jouissance de se dire, tiens, pourquoi il le dit comme ça? Est-ce que c'est un effet de style? Est-ce que ça se dit comme ça couramment dans la langue? Nous l'exprimerions différemment. Et est-ce que les sentiments s'expriment de la même façon? Et tout cela, ça ajoute au plaisir. Ce n'est pas un exercice d'école, c'est un véritable plaisir.
Mais pourquoi apprend-on mieux? Pourquoi lit-on mieux quand on ne sait pas la langue? Est-ce parce que les langues étrangères, pour vous, ne sont pas les langues du travail, mais les langues du divertissement, au fond?
Il y a cela. C'est que mon travail, c'était dans ma jeunesse de faire du latin et du grec, et ensuite toute ma vie de lire en ancien français, en ancienne langue d'oc, etc. Alors, bon, comme je suis paresseux...
Ça, vous dites que vous êtes paresseux.
Mais on ne vous croit pas.
Mais si,
je suis paresseux.
Mais non.
C'est pour ça que... Quand, dans mes moments de loisirs, je ne continuais pas à lire ce qui était mes lectures de travail, premier point. Et deuxième point, si j'avais été courageux, j'aurais appris systématiquement les langues avec une grammaire, etc. Tandis que là, je me suis dit, tiens, dès que j'en sais un petit peu, je vais me mettre à lire mon langue. Et voilà. Et puis... Attendez, la seconde partie de votre question, qu'est-ce que c'était déjà?
Oui, vous voyez, c'était de savoir si c'est du divertissement pour vous, au fond, de lire en langue étrangère.
Oui.
Ne pas lire dans votre langue de travail.
Pourtant,
ça vous demande un effort.
Oui, ça demande un effort, mais c'est un effort qui satisfait une curiosité, un dépaysement. C'est comme l'effort de voyager. Il faut se lever tôt le matin pour prendre son avion, mais après, on est content. Et bien là, on fait ce petit effort et on a l'impression d'être réellement transporté. Et comme quand on voyage, on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Plus on considère que l'autre est un autre, et qu'on prend la peine de le voir comme un autre, plus finalement on en apprend sur soi-même et sur lui, et on s'en rapproche.
Michel Zinc, sur la traduction, vous écrivez que même la meilleure traduction possible mutile ou déforme. Elle donne, par exemple, aux textes médiévaux une tonalité simplette qui est trompeuse. Elle donne à certaines langues orientales quelque chose de gourmet, à certains romans américains quelque chose de vulgaire. C'est que les registres de langue, dites-vous, sont en décalage. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là exactement.
Oui, par exemple, pour l'ancien français, les romans ou les poèmes sont en vers et jouent beaucoup sur les effets d'écho de sonorité, la rapidité des vers qui s'enchaînent sans cheville. Si on traduit ça en prose, ça fait effectivement simplet. En américain, vous avez des expressions familières qui, si on les traduit littéralement, sont vulgaires en français. Je ne sais pas l'arabe, mais en arabe, bon, une littérature en arabe littéral donne quelque chose d'un peu solennel, d'un peu oratoire, traduite en français, qui ne doit pas produire la même impression dans la langue d'origine.
Rassurez-nous, vous ne lisez pas en arabe quand même.
Je ne lis pas en arabe, non.
Donc c'est pas le vice jusqu'à lire une langue que vous ne maîtrisez pas absolument.
Donc je parle de ce que je ne sais pas. Mais quand je lis en traduction, et même dans d'autres langues, quelquefois je me dis, ça ne doit pas sonner comme ça dans la langue d'origine.
Michel Zinc, vous dites dans votre livre que les Français sont réputés depuis toujours pour leur ignorance des autres langues, des langues étrangères. C'est vrai qu'on est souvent nuls par rapport à d'autres pays en langue étrangère. Vous dites qu'on s'en plaignait déjà pendant la guerre de 100 ans. Racontez-nous.
Oui, bien c'est un épisode que raconte Jean Froissart, qui est un auteur merveilleux. Il raconte des négociations entre les Anglais et les Français. Bon, et le duc de Gloucester, qui est un faucon du côté anglais, à un moment éclate et dit « Mais enfin, c'est quand même scandaleux, nous parlons en français. » Évidemment, les négociations sont en français. Nous savons le français. C'était sous la monarchie angevine issue de la conquête de l'Angleterre. Donc ils parlaient français. Mais enfin, quand même, c'est pas vraiment notre langue. On le parle à moi bien vous. Vous parlez à toute allure. On comprend rien. Vous nous enfumez. ça va pas du tout. Évidemment, vous êtes incapable de dire un mot d'anglais. On est bien obligé de passer par là. Voilà. Donc c'était déjà comme ça.
Déjà nuls, quoi.
Oui, ben voilà. Oui.
De toute éternité.
On était déjà nous. Voilà,
oui. On était déjà nous. Dans ce livre sur vos lectures étrangères, on trouve, Michel Zinc, un passage étonnant. Vous dites que souvent, ce qui fait la marque des romanciers français, c'est de ne pas aimer leurs personnages. Alors vous saluez les efforts de Stendhal pour aimer les siens. Vous dites que Balzac a au mieux de la condescendance pour ses personnages, surtout quand ce sont des victimes et de faibles victimes. Quant à Flaubert, il n'aime personne ou presque.
Sauf Félicité, mais enfin bon...
Voilà. Mais pourquoi ? Pourquoi ça fait la marque d'une grande partie du roman français ?
Alors, Stendhal, justement, et ça confirme, fait tous les efforts pour faire croire qu'il n'aime pas ses personnages. Mais c'est ça son charme, on voit tellement qu'il les aime. Mais parce que je pense que les Français ont peur qu'on les prenne pour des imbéciles. Et ils ont peur, s'ils montrent qu'ils sont attendris par leur propre personnage et qu'ils aiment leur propre personnage, d'avoir l'air bête. Il faut qu'ils puissent ricaner et montrer qu'ils sont au-dessus de ça. Tandis que des romanciers dans d'autres qui sont tout aussi intelligents et qui écrivent des romans qui valent bien les nôtres, eux n'ont pas peur de cela. Et je prends comme exemple même Virginia Woolf, auteur intellectuel s'il en est, d'une subtilité qu'on peut comparer à Proust, mais elle aime ses personnages, même des personnages qui ne sont pas particulièrement intelligents, comme Mrs. Dalloway, qui est finalement une mondaine un peu sotte, mais même une mondaine un peu sotte a sa profondeur et est attendrissante.
Ouais. Et alors que nous, on est trop snob pour aimer nos personnages.
Et ben voilà.
C'est du snobisme pur.
Je le sens un petit peu comme ça. Alors, comme toutes les généralités, ça a ses limites, la vérité a ses limites. Mais enfin, ce n'est pas totalement faux.
On avait envie aussi de vous recevoir ce matin, parce que c'est notre dernière matinale, et que souvent, en été, on lit plus. Alors, on ne va pas vous demander le sempiternel conseil de lecture. En revanche, on va parler d'un livre qui est central dans votre vie, qui vous a bouleversé, vous le racontez dans ce livre-là. C'est les Buddenbrook de Thomas Mann, un roman qui décrit le déclin d'une famille bourgeoise au 19e siècle. Vous le lisez pour la première fois à l'âge, dites-vous, c'est joli, à l'âge où l'on sait ce que veut dire l'aspiration à la poésie dans la poussière d'un lycée et d'être celui qui danse trop mal et parle trop bien pour que les filles le regardent. C'est Nicolas. Est-ce parce qu'il vous a permis d'échapper à l'adolescence que ce livre, les Buddenbrook de Thomas Mann, que ce livre tient une place particulière dans votre cœur ou parce que c'était le livre préféré de votre mère ?
Pour les deux raisons. Je l'ai lu parce que ma mère se référait sans cesse aux Buddenbrook. Et dès que j'ai pu, c'est la langue que j'ai pu lire le plus vite, dès que j'ai pu lire en allemand, j'ai lu les Buddenbrook. Et c'est, alors, ce n'est pas le seul aspect qui m'a retenu, ce n'est pas celui qui me retient le plus maintenant où j'ai passé l'âge de danser ou de ne pas savoir danser et de plaire aux filles. Mais c'était... À l'époque, cet aspect qu'on retrouve ailleurs chez Thomas Mann d'Antonio Kröger, et qui est surtout sensible à la fin du roman avec le personnage du petit Hanno qui meurt jeune, me touchait. Mais cette, Cette famille dont on suivait le déclin avec de façon déchirante, parce que ce déclin commence et on le voit arriver alors qu'elle est encore en train de monter. C'est quelque chose qui est très vrai. Quand le Thomas, le personnage central, enfin, ou le personnage le plus aimé de Thomas Mann, auquel il s'identifie sans doute, arrive au sommet de sa carrière, eh bien, on voit que le déclin est en route, et depuis très longtemps. Et la scène initiale, qui est très très longue, familiarise tellement avec sa famille, la pendaison de crémaillère, dans cette belle maison patricienne, avec leurs amis, que le... Et on se met à les aimer tellement, tous avec leurs défauts, parce qu'ils en ont que... Quand ça commence à aller mal, on ne veut pas y croire, et on se cramponne à cela. Si, là vraiment, c'est une lecture des tests, hein, leur roman long, et on a le droit de le lire en français.
Mais vous le conseillez, celui-là, par exemple?
Ah oui, il est difficile de ne pas être transporté par les Bodenbrough.
Vous dites même que le livre vous fait encore pleurer aujourd'hui?
Eh bien oui, mais alors, je suis, comme disait mon... Maître et ami Marc Fumaroli, c'est curieux, je pleure au cinéma alors que je pleure pas dans la vie, n'est-ce pas ? Eh bien, je dis dans ce livre que, en écrivant sur mon petit livre, j'ai repris un soir les Bodenbrooks, et au moment où la pauvre Tony on sent qu'elle va être contrainte d'épouser l'infâme Grünlich, ça veut dire verdâtre, tous les personnages ont des noms qu'ils ont, eh bien... c'était tellement triste que j'ai pas pu continuer. Voilà. Enfin bon, ça de malin, mais enfin, c'est un peu vrai. C'est vrai.
Vous consacrez un passage de ce livre à Elias Canetti, prix Nobel de littérature 1981. Derrière Canetti, c'est un monde disparu que vous décrivez. Ce monde où à la maison on parlait espagnol, dans la rue on parlait bulgare, avec les domestiques on parlait roumain. Les choses de l'esprit, la littérature, la philosophie, la poésie étaient le domaine de l'allemand. Pour les affaires, on parlait anglais. Ce monde d'Elias Canetti, c'était le monde de l'Europe cosmopolite, de la mythologie Europa. Ce monde disparu, en avez-vous, Michel Zinc, la nostalgie ?
Oui, j'en ai la nostalgie, et je ne saurais même pas exactement dire pourquoi. Mais ce monde, non seulement parce que c'était un monde polyglotte et qui réunissait de nombreuses cultures, mais parce que dans ce monde... qui était brutal, mais tous les mondes sont brutaux. Il y avait une forme de douceur dans une sorte de douceur que l'on, je retrouve même, je le dis de façon paradoxale, dans la littérature prussienne, qui est aussi une littérature de l'Est, puisque la Prusse, ça va jusqu'à l'Empire russe à l'époque. Et donc, chez des peuples qui sont réputés plutôt brutaux, on s'aperçoit qu'il y a des romanciers qui ont une délicatesse, une distance vis-à-vis de cette société brutale, injuste qu'ils décrivent, mais contre laquelle ils ne se révoltent pas. Et on voit ces personnages qui sont déchirants, parce que ils acceptent leur sort, et en même temps, ils ne sont pas stupides, ils voient très bien ce qui ne va pas.
Ils pressentent le déclin aussi.
Ils pressentent le déclin, et ils sentent l'injustice même de leur situation favorisée, comme le héros de Hermans et Tourments, Irwin Verhoeven de Fontane, qui est aussi un très beau roman.
Vous vous malmenez dans votre livre, hein, Michel Zinc. Vous racontez ces vacances d'été où vous passiez vos journées assis à rédiger votre grande thèse sur la prédication en langue romane avant 1300. Et vous écrivez « Comment ma femme pouvait-elle me supporter ? Comment mes enfants ne me détestaient-ils pas ? Et j'étais fière de mes recherches, comme je les appelais, et j'en parlais, et je me faisais valoir avec elle dans les dîners en ville, tout glorieux d'être un fruit sec. » Un fruit sec ?
Oui, mais vous savez, comme beaucoup de professeurs, je suis tout longtemps, ou toujours, on pourrait dire, considéré comme un écrivain raté. J'ai écrit des petits romans que personne ne lit. Je pense qu'on a raison de pas lire. C'est pas par hasard.
Mais la poésie aussi.
La poésie. J'ai écrit de la poésie. Là, j'en suis pas trop fier. Mes romans, pas non plus.
Mais ce livre-là, vous êtes fier quand même. Vous nous en parlez ce matin.
Oui. Alors, mais voyez. Je réussis relativement en parlant de littérature, mais en n'en parlant pas comme un professeur. Ah. Et là, il y a une sorte de chemin étroit de la création où, sans nulle vanité, je trouve que finalement, c'est pas plus mal qu'autre chose. Quand je me revois Thésard...
Avant l'informatique, dites-vous, parce qu'il fallait charger le coffre la voiture avec les fiches.
Des grands fichiers de bois où il y avait des milliers de fiches.
On va passer au standard, Michel Zinc, parce que de nombreux auditeurs souhaitent dialoguer avec vous. La parole à Bruno pour commencer. Bonjour Bruno, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour à votre invité, bonjour à vous. Je voudrais déjà consoler Michel Zinc pour lui dire que s'il se prend pour un auteur raté, moi je le lis. J'avais lu de lui « Seuls les enfants savent lire », j'avais adoré. Ma question est la suivante. Il nous dit que on lit mieux dans une langue qu'on ne sait pas. Ici, en zone frontalière, au Pays Basque, on a tous une pratique de l'espagnol. On parle tous couramment l'espagnol quand il s'agit d'aller commander des tapas et un vin à Saint-Sébastien ou à Pampelune. Ça, on sait faire. Pour les vacances, ça tombe bien. Bienvenue à tous. Ouais. Maintenant, s'agissant de l'espagnol, bon, je sais que Monsieur Zinc lisait en italien et en allemand dès sa jeunesse. S'agissant de l'espagnol, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on lit mieux ? La bande dessinée, où il y a un autre registre de langue qui est la vignette, l'image, et qui vient appuyer la langue, ou des ouvrages en langue soutenue, avec un vocabulaire abscon, voire abstrait, de type José Luis Borges, l'auteur argentin, que j'ai essayé de lire, mais avec lequel j'ai beaucoup de mal.
Merci, merci beaucoup Bruno pour cette riche question. Bruno qui peut lire l'espagnol pour commander des tapas, mais qui a autrement plus de mal pour Borges, Michel Zinc.
Alors, pour l'espagnol, j'ai déjà lu des romans en espagnol, mais j'ai du mal. Mais la question que pose monsieur est très, très intéressante, parce que ça rejoint celle de la connaissance des langues étrangères par les Français. Il y a deux façons de connaître une langue. On peut savoir commander les tapas et se débrouiller dans la vie, et avoir beaucoup de mal à lire un roman, pas forcément abstrait, mais une œuvre littéraire. Et puis, il y a l'inverse. On peut savoir lire des romans et avoir du mal dans la vie. Moi, je suis de l'autre côté, de ce côté-là, parce que je suis un cuisse, peut-être, enfin, pour toutes sortes de raisons. Mais l'idéal est tout de même d'être capable de faire les deux. Les Français sont... connu depuis toujours pour mal savoir les langues étrangères, ça disparaît avec les jeunes générations. Les jeunes générations savent très bien l'anglais, mais ne lisent plus de littérature. Et donc, on se comprend mal si on n'a pas une culture commune.
Question sur l'appli France Inter de Sylvie. Que pensez-vous de la langue des réseaux sociaux ? On vient d'écouter l'adolescente Mila.
Oui, je l'ai écoutée, oui.
Vous vous intéressez à cette langue de la jeune génération ? Et une autre question de Sylvie, qu'est-ce que lisaient les jeunes du Moyen-Âge ?
Alors, pour les réseaux sociaux, moi je ne fréquente pas beaucoup les réseaux sociaux, je dois dire. Et quand je tombe dessus, alors là aussi c'est une réaction de cuisse. Au début, je croyais, comme c'est souvent violent et injurieux, que les gens faisaient exprès de faire des fautes d'orthographe pour manifester leur mépris. Or non, ils ne font pas exprès. Alors j'ai déjà au moins appris ça. Et au Moyen-Âge, alors, on lisait rarement, enfin, ça c'est venu progressivement, tout seul, on se faisait lire ou on entendait. Et je pense que dans l'aristocratie, mettons, la jeunesse écoutait des chansons de gestes ou des romans et des chansons d'amour. Et puis voilà. Mais les vraies études, se faisaient en latin pendant longtemps.
Michel Zinc, vous avez consacré votre vie à l'étude de la littérature médiévale. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue radicalement, fondamentalement, un homme du 21e siècle d'un homme du Moyen-Âge ?
Et alors, je dirais que nous avons une idée plus nette des limites des lois de la nature. Et donc, la limite entre le naturel et le surnaturel. Ce qui est impossible de rencontrer dans la vie, est-ce qu'on va rencontrer ? Eh bien, nous croyons au moins en avoir une idée très nette.
Non.
Comment ?
Les gens du Moyen-Âge, non ?
Mais non, parce que, d'abord, Dieu peut tout faire. Normalement, c'est toujours les causes qui entraînent les mêmes effets. parce qu'il ne veut pas que nous devenions fous, mais il peut à tout moment intervenir. Voilà.
Dans un entretien à la revue Zadig, Emmanuel Macron a récemment déclaré que la pandémie de Covid-19 était la métaphore de notre époque et il a ajouté « On revit des temps au fond très moyenâgeux, les grandes jacqueries, les grandes épidémies, les grandes peurs. » Qu'en pense le médiéviste que vous êtes? Que pense-t-il de cette comparaison entre ce moment que nous vivons, le Covid-19, et le Moyen-Âge?
Alors, bon, dans le contexte où le président s'exprimait, on voit très bien ce qu'il veut dire, et donc c'est ça qui importait. Je pense que, sur le fond, c'est discutable pour deux raisons. D'une part, parce que c'est la Renaissance qui s'est elle-même appelée Renaissance et qui a appelé le Moyen-Âge Moyen-Âge de façon péjorative, parce qu'on est toujours sévère avec l'époque qui précède immédiatement. Et d'autre part, parce que si on regarde la Renaissance, c'était pas tellement mieux qu'au Moyen-Âge. Le déchaînement de violence de l'Inquisition, c'est la Renaissance, c'est pas le Moyen-Âge. L'atrocité des guerres de religion, c'est beaucoup plus la Renaissance que le Moyen-Âge. L'espèce d'effondrement moral de la papauté, ça a été à la Renaissance. Et ce qui me paraît, enfin, encore une fois, il a eu raison de dire ça dans le contexte, mais ce qui me paraît dangereux dans cette vision des choses, c'est que nous avons l'impression toujours que nous sommes mieux que nos prédécesseurs. Nous ne commettrions plus les mêmes atrocités que nous sommes plus tolérants, nous sommes plus ceci, nous sommes plus cela. Et nous ne voyons pas que chaque époque se voit de cette façon et voit les époques précédentes comme cruelles et est tout à fait aveugle à sa propre cruauté. Que nous ne sommes pas, on n'est jamais à la fin de l'histoire. On nous reprochera des cruautés qui n'existaient pas avant. Poursuivre Mila sur les réseaux sociaux, eh ben c'est d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, donc nous orientons. Et justement sur les réseaux sociaux, de croire que on a une idée simple, on n'essaye pas de la vérifier. Non seulement on n'essaye pas de comprendre l'autre, mais on est fier de ne pas le comprendre et de l'accabler. Eh bien cela, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Et le refus de connaître le passé, de déboulonner les statues avant de savoir pourquoi les gens, ce qu'ils en pensaient vraiment, comment ils le pensaient, eh bien, c'est quelque chose de très dangereux et c'est pourquoi l'étude du passé est importante.
Nous éclaire.
Michel Zinc, vous dites, ce sera la dernière question, qu'il ne faut pas couper la tête à ceux qui disent le Covid au lieu de la Covid.
Ça, j'ai entendu.
Expliquez-nous.
L'académicien, qu'est-ce qu'il dit?
D'où vient cette mensuétude de votre part?
Oui, non, mais parce que, bon, on m'a interrogé parce que l'Académie française, enfin, c'était Madame Carrère d'Encausse, ça avait dit, faut dire la Covid, et tout le monde dit plutôt le Covid. Bon, la raison de Madame Carrère d'Encausse, c'était que le D de Covid représente disease, qui se traduit en français par maladie, et qui est féminin. Mais ça veut se traduire par mal aussi. J'ai fait remarquer que le mot disease existe en ancien français, pour dire à peu près la même chose, et que c'est un mot féminin. Donc ça justifiait Madame Carrère d'Encausse. Mais que malaise est masculin et a survécu, alors que désaise a disparu. Et que aise, en ancien français, peut être soit masculin, soit féminin.
C'est ça, donc, vos réunions sur le dictionnaire et sur les nouveaux mots.
C'est-à-dire, je ne lèverai pas le voile sur les réunions admirables de l'Académie française que je dis après. Mais,
donc vous ne nous coupez pas la tête si on dit le Covid?
Non, ben, il faut qu'on fasse beaucoup pour que je coupe la tête, hein, franchement. Non, en tout cas pour ça. Non.
Merci pour votre mensuétude.
Merci beaucoup. On lit mieux dans une langue qu'on sait mal. Et le titre du livre que vous signez aux belles lettres. Et pour les auditeurs qui nous ont appelés nombreux pour nous redemander quel était votre conseil de lecture, c'est Thomas Mann, les Buddenbrook, c'est ça?
Voilà, entre autres.
Entre autres. Merci beaucoup.